Je vais commencer par une petite narration, si vous permettez, avant de commencer. Donc, c'est le commencement du commencement. La vallée de la recherche, pardon, la première vallée est celle de la recherche. Et la monture se nomme patience. Sans patience, le voyageur n'arrive nulle part et n'atteint aucun but. Qui ne perdent jamais courage. Il a pris dans cette recherche la ferme résolution de servir et s'efforce sans cesse d'aller du niveau de la négligence au royaume du vouloir. Aucun lien ne le retient, aucun conseil ne le dissuade. Il incombe à ce serviteur de purifier son cœur, source de trésors divins, de tout attachement et de refuser toute imitation qui consiste à suivre les voies de ses pères et de ses aïeux. On raconte ce qui suit. Voyant un jour Majnun en larmes, tamisant la poussière, on lui demanda « Que fais-tu là ?»« Je cherche Layli, mon amante. » Malheureux, tu cherches Layli. C'est un esprit de pureté et toi, tu la cherches dans la poussière. Je la cherche partout, dans l'espoir de la trouver quelque part. N'est-ce pas là la preuve d'une quête, d'une ferveur intense? Celui qui cherche avec ferveur trouve toujours. Le rechercheur ne poursuit que l'objet de sa quête, tout comme l'amant n'a d'autre désir que l'union avec sa bien-aimée. Il n'y réussira qu'en sacrifiant tout ce qu'il a vu, entendu et compris. Donc après cet petit extrait d'un livre mystique, je vais, non pas comme vous vous attendez à me présenter, mais vous allez peut-être vous présenter un petit peu. Est-ce qu'il y a une personne qui veut faire disons un résumé de peut-être ce que pourrait être l'attente des participants? Ça peut être aussi sur Zoom, bien entendu, dans l'idée de pouvoir parler en connexion avec vous et savoir un petit peu ce que vous attendez. Y a-t-il une personne? Ah, il y a Michel qui lève la main sur Zoom. Ah, j'ai cru. Non, personne. Ok. La découverte. Ok. Je vais partir de ça là. Bon, je vais rapidement me présenter. Ah, bonjour Mathias qui est arrivé. Donc, ce que je fais dans la vie, peut-être, je peux commencer par là. J'essaye de prendre soin de mon corps, de mon esprit et de mon cœur dans le but de servir l'humanité. Parce que je crois que, donc là, comme ce soir, le thème est la spiritualité et chemin de libération. Je vais prendre un petit peu ce prisme-là sur tout ce que je vais vous partager. Je crois que la vraie liberté, c'est celle de pouvoir servir nos proches et même les personnes qui sont à l'autre bout de la planète en contribuant à faire avancer la civilisation. Donc en fait, c'est dans ce but ultime-là que je cultive aussi ma santé extérieure et intérieure. D'où je viens? De Dieu, comme chacun d'entre vous. Je viens d'une famille sur-recomposée avec cinq frères et sœurs, demi-frères et sœurs, donc je suis fils unique. Peut-être ça donne un brin d'explication de pourquoi j'essaie sans cesse de mettre de l'ordre dans ma vie. Ça commence déjà un peu compliqué. Donc élevé par deux pères de parents, quoi. Un père, une mère, une belle-mère et un beau-père, qui m'ont apporté beaucoup de choses différentes dans mon enfance. Donc j'ai grandi dans la ville, hein, comme un néo-urbain, donc hors sol. J'ai voilà, supermarché. Bon, je viens pas de la campagne, quoi, c'est ça que je veux dire. Et mes quatre parents m'ont apporté des choses très différentes comme les arts, les sciences, la philosophie. Voilà. Donc jusqu'à 11 ans, j'ai vécu chez ma mère avec un petit frère qui avait 4 ans de moins que moi et une petite sœur qui avait 7 ans de moins. C'était pas évident pour celui du milieu. À 11 ans, je suis parti habiter chez mon père. Au moment du collège, il a commencé à ce moment-là un conflit important entre mes parents pour une histoire de garde. Enfin, donc c'est parti de ça. Mais il y avait beaucoup de choses qui se jouaient. Bon, c'est une relation humaine, quoi. C'était pour moi une période où j'ai appris beaucoup de choses, notamment à être ferme. Ça a pu aller dans l'extrême de la dureté, mais ouais, j'ai appris peut-être un petit peu à faire mon chemin. Et c'était aussi une période où j'ai vécu une grande tristesse parce que j'ai découvert, enfin, j'ai pris un peu plus conscience de la catastrophe écologique. Donc, en sixième, je faisais des recherches sur Internet, je synthétisais des connaissances pour faire des vidéos que je mettais déjà sur YouTube pour sensibiliser mes copains au collège sur plein de thèmes d'écologie, quoi. Ça n'intéressait pas grand monde parce que j'étais assez à part socialement. C'était pas évident. Et c'est à 15 ans, donc en entrant au lycée, j'habitais toujours chez mon père, que j'ai essayé de devenir un petit peu plus normal, dit-on, c'est-à-dire faire ce que les autres faisaient, en bien comme en mal. Ça pouvait être voilà, les jeux vidéo, même fumer du cannabis, malheureusement. Et en même temps, j'aimais toujours apprendre. J'avais beaucoup d'activités à la fois intellectuelles, artistiques et sportives chez moi. Voilà. Et pour finir, ayant des facilités à l'école, je suis allé dans une classe préparatoire en sciences. Et c'est là que les galères démarrent. Et donc, c'est là que le café philo démarre. Parce que c'est là que ça va être vraiment. Mais peut-être un dernier petit mot pour dire peut-être qui je suis. J'aurais du mal à dire qui je suis, mais s'il y a peut-être quelque chose qui me caractérise, c'est la recherche en permanence, en tout cas au moins depuis cette période de mes 18 ans, là, où je suis rentré en classe préparatoire. Et c'est pour ça que je vous ai partagé cet extrait au début qui parle de la première vallée spirituelle qui est celle de la recherche. Et voilà, j'essaie d'être authentique le plus possible dans ma relation avec moi-même et avec les autres. Donc, je vais plutôt prendre le temps de parler, parce que ce serait dommage de passer à côté des choses juste pour combler du silence. Si vous n'êtes pas gêné par quelques secondes de silence parfois, c'est très bien. Sinon, il va falloir apprendre. Désolé. La fin étant écrite dans le commencement, je vais vous expliquer pourquoi moi je suis venu. Donc j'ai été invité par, enfin, j'ai été contacté par l'Assemblée spirituelle des Bahaïs de Chambéry pour participer à ce compte-feu. Et pourquoi est-ce que j'ai accepté? Sûrement parce que je me sens plutôt à l'aise de parler. De parler de spiritualité, de parler devant des personnes. Donc, et j'espère que la fin de ce coin de feu, c'est-à-dire les fruits pardon, pas de ce coin de feu, de ce café Théo. J'organise moi-même des coins de feu, j'appelle ça, pour échanger aussi sur des thèmes spirituels et sociaux, etc. J'espère que les fruits de ce café Théo seront les fruits de l'intention qui est de vraiment partager un chemin qui, moi, m'a permis de mettre en cohérence l'ensemble des choses dans ma vie, à commencer par mes besoins personnels, parce que avec les frictions, les frottements, les difficultés dans le social, enfin, c'est-à-dire dans les relations sociales, il fallait aussi pouvoir être aussi, donc mes besoins personnels. Et il fallait pour moi que ça corresponde aussi à des enjeux de l'humanité d'aujourd'hui. Et donc voilà, mon chemin amène à intégrer un peu toutes ces parties, tous ces aspects de la vie. Alors, je ne viens pas spécifiquement pour vous parler de ma vie et que de ma vie. C'est effectivement difficile à faire. Ce qui est intéressant là-dedans, pour moi, c'est qu'est-ce que. C'est un peu l'objectif, c'est qu'est-ce que ça peut donner, qu'est-ce que ça peut générer chez vous, dans votre intériorité, et qu'est-ce que dans l'extériorité, donc peut-être dans l'action, et voilà, et qu'on puisse évoluer un peu tous ensemble ce soir. Parce que je n'ai pas donc l'intention de ne faire que parler. Normalement, il devait y avoir deux parties, mais si c'est OK pour l'organisation, moi, je suis partant pour faire quelque chose de un petit peu plus improvisé, dans le sens où moi, j'ai une liste de choses, d'anecdotes de ma vie que je peux raconter qui sont en lien avec des thèmes spirituels, ceux qui me guident, qui m'accompagnent aujourd'hui. Donc, si vous voulez bien. OK, ça va. Donc, on fonctionnera pas mal sur questions-réponses, quoi, d'échanges comme ça. Enfin, questions-réponses. Question-question, parce qu'on répond à une question qu'avec d'autres questions. Là, donc n'hésitez pas, même si des fois il y a quelque chose qui vous interpelle, n'hésitez pas à lever la main, que ce soit en présentiel ou sur Zoom. Il y a Olivier, notre gardien technique. Et je m'efforcerai, non d'abord, oui, donc j'exprime un peu des choses qui me passent par la tête, ça vous l'avez compris. Je tiens à préciser que tous les partages que je vais faire, c'est très important. La chose la plus importante pour recevoir ce que je vais pouvoir vous dire, c'est que tous les partages que je vais faire sont vraiment personnels. C'est-à-dire que c'est mon approche de la vie, c'est ma compréhension de la vie, même si je vais peut-être beaucoup vous parler de la foi bahaï et de ses enseignements. C'est absolument pas un discours officiel, c'est mon interprétation personnelle. Il y a un principe fondamental dans la bahaï, c'est dans la foi bahaï, c'est la recherche indépendante de la vérité. Donc, tout ce que je dis doit être soumis au crible de votre propre conscience, jugement, etc. Donc, je ne parle pas du tout au nom des Bahaïs, je parle au nom de moi, Quentin Provan. Et je m'efforcerai, donc, dans chaque partage que je fais, même si je raconte des anecdotes, d'élever le propos au niveau du principe, des principes spirituels sous-jacents. Parce que je crois que c'est le début et le commencement, comme toi, de chaque chose dans cette existence. Voilà. Donc, bah, allons-y. Alors, est-ce qu'il y a une première question?
Est-ce que dans votre famille, il y avait une spiritualité qui était enseignée, qui était vécue? Oui ou non, peu importe. Comment vous avez découvert les bases?
C'est un bon point de départ. Après, je crois qu'il y aura Michel qui va prendre la parole. Comment? Ah oui, pardon, je répète la question. Y avait-il, je répète, pardon, je reformule, parce qu'il y a une erreur d'interprétation, hein, toujours. Y avait-il une forme de spiritualité dans mon éducation, dans mon enfance, ma jeunesse, et comment est-ce que j'ai rencontré la foi bahaï? Donc ça commence fort. Dans ma jeunesse, j'ai le sentiment, c'est vraiment un sentiment, c'est une mémoire, que la spiritualité m'est venue de façon assez indirecte, bien que mon père m'ait souvent présenté des principes philosophiques, parce qu'il est prof de philo, et qu'il m'ait aussi appris à méditer. C'est lui qui me parlait un petit peu de ce que c'était la prière. Il m'avait aussi emmené dans quelques monastères chrétiens, mais c'était assez éparpillé, enfin assez diffus ça, dans ma vie. Et donc, en dessous de mes 11 ans, j'habitais chez ma mère et j'ai pas le sentiment d'avoir gardé en tête particulièrement une éducation spirituelle au sens de consciemment orientée vers le développement de l'âme, quoi. Donc, cependant, j'ai quand même hérité d'une sensibilité, visiblement. Ma mère est très spirituelle aussi, elle est ouverte à beaucoup de choses. C'est à l'âge de 22 ans, donc lors de mes études, parce que je vous parlais du point pivot, un peu du tournant dans ma vie qui s'est. Qui était au moment de rentrer en classe préparatoire, donc à 18 ans. Au moment de rentrer en classe préparatoire, ouais, donc que là, je vais, ça va être un trop grand détour. Mais j'ai commencé à me questionner et à chercher qui j'étais vraiment. C'est le fameux qui suis-je que je ne m'étais pas posé avant. Bien que j'avais entendu que des philosophes se posaient cette question, je suis là, bon, d'accord, c'est une question comme une autre. J'ai commencé à me la poser vraiment moi-même et à aller chercher au fond qu'est-ce qui m'anime, quoi, quelle est mon identité, qu'est-ce qui fait ma particularité et qui est-ce que je veux être aussi dans la société, dans mes relations avec les autres. Et puis, cette recherche m'a amené jusque. Enfin, je suis rentré en école d'ingénieur 2 ans après et 3 ans après, disons, j'ai vraiment voulu m'engager pour l'environnement, pour la planète et pour voir les enjeux du monde d'aujourd'hui que vous connaissez tous un petit peu. Et j'ai engagé dans une association qui s'appelle Ingénieurs Engagés, où on faisait des ateliers de sensibilisation, des choses comme ça. Et j'ai découvert la permaculture, chez Ingénieurs Engagés. Donc la philosophie de la permaculture, hein, pas seulement l'agroécologie, mais bien. La philosophie des choses permanentes, donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on cultive des choses qui soient, donc pas seulement dans la terre, mais aussi socialement, dans l'éducation, dans l'économie, comment est-ce qu'on fait pour créer des systèmes qui soient pérennes, en fait, qui soient durables, c'est-à-dire qui puissent pas, qui vont pas puiser dans les ressources jusqu'à les éteindre complètement. Donc ça, c'est devenu un peu ma religion, quoi. C'est la pensée systémique, ces choses comme ça. Et puis j'organisais chez moi, mon appartement, des ateliers de réflexion pour refaire le monde avec mes amis ingénieurs, quoi. Parce que il était urgent de savoir mais qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, parce que c'est vraiment urgent. Et en retour, j'ai un ami donc d'ingénieur engagé qui était venu à un atelier de réflexion qui m'a invité en retour. Un atelier de réflexion qui était organisé par les Barils de Grenoble. Donc c'est ce soir-là que je suis rentré en contact avec un premier thème Baril qui était la place des jeunes dans le monde. Donc ça touchait vraiment ce qui me préoccupait. Je suis retourné 2 jours après à un autre atelier de réflexion sur la justice économique, donc toujours un atelier de réflexion Baril, c'est-à-dire inspiré voilà, des grands enseignements pareils, disons. Et puis, au fil de l'eau, on m'a invité à venir aux réunions de prière. Alors, je n'avais pas de pratique spirituelle particulière, si ce n'est méditer sur moi-même, réfléchir, écrire et chercher mon chemin. Je priais pas, mais j'y suis allé et c'était très chaleureux. C'est-à-dire, l'ambiance était vraiment élevante. Dans une réunion de prière, c'est très simple, hein. On s'assied. On écoute le silence et puis on écoute les uns et les autres partager des écrits, des prières, des chants ou rien. Et après ça, il y a un temps social. Et ça, c'était vraiment chouette de rencontrer des personnes qui, je sentais, étaient vraiment investies dans l'amélioration du monde, quoi. Et je sentais aussi qu'il y avait un travail sur elles-mêmes. Ce n'est pas juste des personnes qui se disaient ah, faut vraiment sauver les animaux et puis allons-y à fond dans l'action. Ce n'est pas que ça. Il y a beaucoup ça pour agir sur l'environnement, humain et donc naturel, mais aussi voilà, d'avoir une vraie démarche sincère intérieure. Et puis, après, j'ai commencé à faire des activités parce que ça m'a beaucoup parlé d'avoir à la fois une spiritualité très profonde, puisque ça parle de. C'est une religion monothéiste, brahmique, donc comme le christianisme, l'islam, si vous voulez. Pour les barrières, en fait, c'est un peu la suite de ça. Et donc, pour moi, ça englobait tout, en fait. Ça venait apporter le fond spirituel que je n'avais pas dans la permaculture. J'avais un petit peu dans l'esprit, mais là, vraiment, de connecter à quelque chose d'absolu, c'était absolument génial. Parce qu'en plus, ça s'ancrait, ça s'enracinait dans l'action concrète, dans le quartier même. Donc, de façon un petit peu, de façon très autonome, hein, c'est-à-dire on comprend notre quartier et de quoi est-ce qu'il a besoin, et puis on va agir pour apporter une éducation spirituelle aux enfants, développer la spiritualité des pré-jeunes et étudier aussi ensemble des cercles d'études. Donc c'est très local, mais en même temps, il y a un plan global. Donc l'unité, enfin, l'humanité tout entière, enfin, je parle de la communauté Bahaï tout entière et les personnes qui travaillent les Bahaï, puisque c'est pas du tout réservé, avancent dans la même direction. Voilà. On le regarde tourner vers les mêmes objectifs. Et donc ça, je trouvais ça génial, parce que c'est aussi ce qui me manquait. Je me disais, mais si on va chacun faire un truc de son côté, moi, ce que je voulais faire à un moment donné, c'était genre, quand j'achète un téléphone, quand j'achète des vêtements, quand j'achète à manger, je pollue. Il y a des emballages, il faut les fabriquer et tout. Et puis, en fait, c'est ultra destructeur. Donc, il faudrait que j'aille vivre en autonomie. Ce qui était incohérent, parce que je me disais, mais si je fais ça, je ne sauve pas du tout la planète, en fait. Ça aura juste une personne en moins qui aura un impact sur. Et encore, parce que du moment qu'on coupe des arbres pour cultiver à manger, on a aussi un impact sur l'environnement. Donc voilà, il manquait cet aspect global qu'il y a vraiment dans l'action avec la foi Bahaï. Moi, j'ai un petit peu répondu à cette question-là. Il y aurait plein d'autres choses à dire, mais ça va venir au fil des diverses questions et partages. Est-ce qu'il y aurait une autre question, une remarque, une réflexion? Ça peut être vraiment, sentez-vous libre.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Donc, en fait, j'ai été interpellée par le mot renaissance au pluriel.
Pourquoi renaissance au pluriel? Parce que c'était le titre de la conférence ce soir. Enfin, c'est un titre que j'ai proposé. Je ne sais plus exactement quel était le reste du titre. Mais donc, renaissance au pluriel, parce que je crois que la vie est un cycle éternel. Où quand on est sur un chemin spirituel, je crois, en fait, même quand c'est pas spirituel, parce que notre vie, qu'on le veuille ou non, pour moi, elle est spirituelle. Le tout, c'est est-ce qu'on choisit d'avancer sur ce chemin ou est-ce qu'on choisit de revivre toujours les mêmes choses? Parce que sans conscience, on répète tout simplement les choses, que ce soit les erreurs ou les victoires, tout va se ressembler en fait. Et j'ai le sentiment que c'est par la conscience, par une compréhension profonde des choses, la connaissance, qu'on est capable d'interférer dans ces cycles répétitifs pour agrandir les boucles, en fait, en quelque sorte, qui vont gagner plus de profondeur. Et en fait, de cycle en cycle, on comprend un peu plus de choses, un petit peu plus loin. Si on parle du terme amour, un enfant peut avoir une compréhension de ce que ça signifie, un adolescent peut avoir une compréhension de ce que ça signifie, mais en fait, personne n'a la compréhension absolue de ce que ça signifie. On peut toujours avancer sur cette signification. Donc, renaissance au pluriel, parce que je crois que ces cycles, dans ces cycles, enfin, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je dis, je sais qu'il y a des phases où c'est exactement comme dans l'histoire, en fait, de cette vallée. Le vrai chercheur ne poursuit que l'objet de sa quête et l'amant n'a d'autres désirs que l'union avec sa bien-aimée. Il n'y réussira qu'en sacrifiant tout ce qu'il a vu, entendu et compris. C'est en ce sens, les renaissances, pour moi, c'est que on doit abandonner beaucoup de choses pour en découvrir de nouvelles. Dans la mesure du possible, on doit tout abandonner. Mais par cycle, parce qu'on ne peut pas non plus vivre dans le « je ne sais pas pourquoi, que fais-je, où vais-je, dans quelle étagère ou courge ». Mais voilà, il y a certaines phases où vraiment tout perd son sens, plus ou moins fort selon l'intensité de cette renaissance, mais tout perd son sens et il faut tout reconstruire, tout réapprofondir. Voilà pourquoi renaissance avec un S, et notamment que ce soit dans mes expériences professionnelles, dans mes études, L'année dernière, j'ai même eu un accident très grave où j'ai failli mourir. J'étais à deux doigts de la mort. J'étais maintenu en vie avec des produits chimiques parce que j'ai basculé de la terrasse chez ma mère. Donc voilà, je fais un petit détour anecdote. Donc l'été dernier, le dimanche matin, je m'asseyais sur le rebord de cette terrasse où il n'y a pas de rambarde, donc à 3 mètres au-dessus du jardin, et pour prier et méditer. Et ce matin-là, j'aurais perdu, je dis j'aurais parce que je ne me rappelle pas des faits, j'aurais perdu connaissance et basculé, chuté de 3 mètres en contrebas dans le jardin. Ce qui aurait une triple fracture de la mâchoire, enfin maxillofaciale, une commotion, traumatisme crânien, et surtout, le plus grave, c'était une multiple fracture du foie. C'est possible de se casser le foie. Et donc, qui a causé une hémorragie interne. Et j'étais seul chez moi à ce moment-là. Je me suis réveillé beaucoup plus tard. Enfin, c'est mes amis enquêteurs qui ont regardé les traces de sang et qui essaient de retracer la scène. Donc, parce qu'il y avait une flaque de sang en bas. Donc, je me suis réveillé un petit peu plus tard. Je me suis traîné. Je ne sais pas ce que j'ai fait dans l'appartement, mais bon, j'ai fini par sortir de chez moi après, et puis c'est les voisins qui ont appelé les secours. En m'amenant à l'hôpital, il n'y avait rien de surprenant. J'avais conscience, enfin, j'étais en conscience, sauf que je ne me rappelais pas de ce qui venait de se passer. Il s'était passé quelque chose, mais on ne savait pas quoi. J'avais des marques sur le visage, c'est tout. Et j'étais un peu faible, je crois, mais bon. Et on ne comprenait pas, enfin, ils ne comprenaient pas, ils ne voyaient rien de spécial, donc bon. Un pompier, l'intuition, c'est magique dans la vie. Parfois, personnellement, je pense que ça se cultive, mais peut-être qu'on en parlera après. Ce pompier a eu l'intuition qu'il fallait quand même faire un scanner. Donc, on m'a fait un scanner et j'avais une hémorragie interne importante. Donc, on m'a opéré d'urgence, chirurgie militaire pour mon pronostic vital était engagé et je me suis réveillé donc une semaine plus tard. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'étais encore à moitié dans les vapes, enfin plus qu'à moitié d'ailleurs. Et me retrouvant dans un lit d'hôpital, les pieds poings liés, parce que j'étais sous sédatif et sous perfusion et tout, donc il ne fallait pas que j'arrache les tuyaux, etc. J'étais vraiment attaché au lit dans une pièce toute blanche avec personne. Pendant 24 heures par jour, quoi, ou 23, parce que j'avais quand même de la visite des infirmières et de ma famille chaque jour. Mais c'était très surprenant de me retrouver là sans comprendre ce qui s'était passé. Et donc, il y a eu un grand questionnement à ce moment-là. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi ça? Et donc, voilà, ça, c'est une forme de renaissance. Enfin, la renaissance, c'était après. Hein. Ce n'était pas l'accident lui-même, mais c'était ce que ça a généré. D'essayer de comprendre la cause de l'accident. Les matérialistes diraient, bah, c'est bon, tu as perdu connaissance, tu as fait un malaise vagal ou tu as juste fait de l'apnée trop longtemps, tu as perdu connaissance, t'es tombé point barre. Mais pour moi, il n'y a pas de point barre, en fait. Il n'y a jamais de point barre, sinon il n'y aurait pas la vie. Et donc, j'ai cherché à comprendre l'origine de cet accident. Et c'est dans cette démarche que j'ai pu comprendre beaucoup de choses supplémentaires sur moi et que j'ai pu un peu restructurer ma façon de vivre. Un exemple de renaissance. Y a-t-il des partages? Pendant que je regarde un petit peu mes notes.
Tu as parlé tout à l'heure de la patience, de la persévérance. C'est ça, de changement radical. Est-ce qu'il y aurait aussi un certain combat spirituel, c'est soi-même, continuer d'espérer, s'arrêter, dire non, tant pis, je continue à vivre, j'ai cette force de vivre, je ne sais pas vraiment pourquoi. Tout indiquerait le lâcher prise. Ça veut dire qu'un paradoxe dans ce combat, c'est l'abandon total, mais en même longtemps un désir profond de vivre. Et cela, le combat spirituel.
Bon, ce serait trop facile de te retourner la question. Moi, j'ai un...
Est-ce que c'est possible de nous répéter la question, s'il te plaît ?
Ah oui, pardon. La question était, en gros, ce que j'en ai compris, est-ce qu'il y a un combat spirituel qui aurait à voir avec la persévérance, ne pas perdre espoir est-ce que ce ne serait pas ça le combat spirituel ? J'essaie de reprendre un peu tes mots. Pour moi, j'ai un problème avec le mot combat. Pourtant, j'ai fait 10 ans d'arts martiaux. Depuis tout petit, de 2 à 12 ans, j'ai fait des arts martiaux avec mon père. Et c'est extraordinaire. Et pourtant, je n'ai pas le sentiment de vivre un combat. Enfin, ce n'est pas le premier terme que je mettrais, puisque c'est vrai qu'il y a un combat. Mais pour moi, c'est plus une danse, en fait. Et c'est la danse de la vie. La danse, ce n'est pas facile hein, non plus. Ça demande de l'entraînement, ça demande de l'effort, de la répétition, des erreurs. Mais la danse, on la pratique, mais les arts martiaux aussi, parce qu'on l'aime. Et je crois que c'est l'amour qui est le moteur essentiel de toute chose. Bahá'u'lláh dit même, Bahá'u'lláh c'est le messager de la foi bahaïe, au même titre que Mohammed pour les musulmans, par exemple. Bahá'u'lláh dit que l'amour est la plus grande force électromagnétique dans l'univers. Enfin, notamment électromagnétique, je paraphrase. Hein, mais... Et donc, ce serait une force à la fois physique et spirituelle. Bon. C'est grâce. Je fais un petit détour hein, sur un autre principe, un autre point de vue sur la création, sur le monde. C'est grâce aux forces d'attraction que la vie existe. D'un point de vue de la physique, s'il n'y avait pas les 4 forces élémentaires, qui permettent aux particules de se rassembler, qui permettent aux objets de s'attirer les uns avec les autres. Il n'y aurait pas la vie. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aurait pas d'atomes déjà. Il n'y aurait peut-être même pas de protons, de neutrons, parce que tout est composé. Et pour être composé, il faut être rassemblé. Pour être rassemblé, il faut une force. Et c'est la force de cohésion d'un noyau atomique ou même de chaînes de molécules qui fait les propriétés émergentes. C'est ce qui fait qu'il peut exister un atome de carbone, c'est ce qui fait qu'il peut exister un atome d'hydrogène. Sans cette force de l'amour, on va l'appeler, il n'y aurait pas ces éléments-là. Et sans d'autres forces encore, il n'y aurait pas le rassemblement du carbone avec l'hydrogène, l'azote, etc., qui donne les molécules, qui ont pu donner des cellules et qui ont pu donner la vie sur Terre. Qu'elles soient bactériennes, animales, végétales, tout existe. Le système solaire, l'univers, les galaxies, tout existe parce qu'il y a une force d'attraction. Cette force d'attraction nous permet, si on choisit aussi de la cultiver, nous permet de danser indéfiniment. Et ça me fait penser à un très joli poème bahaï qui dit que la foi, c'est respirer là où il n'y a pas d'air. C'est un peu ça. Comment est-ce qu'on danse même quand on n'a plus de jambes, quoi. Et c'est possible, c'est toujours possible. Donc pour moi, c'est d'abord ça. C'est par amour qu'on peut réaliser les choses et non pas par combat. On parle souvent de combattre son ego, de lutter contre son ego. Je crois que c'est une forme d'ego. C'est une forme subtile d'ego de vouloir lutter contre son ego. Par contre, je trouve ça très spirituel que c'est en haut, en fait, pour être naturellement attiré. Mais ces deux, ce sont peut-être deux choses complémentaires. Hein. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent par deux. C'est donc peut-être deux forces complémentaires, comme yin-yang, le fait d'être attiré et le fait de se pousser. Et voilà, j'associe à ça un peu des énergies masculines, féminines, mais pour moi, c'est comment est-ce que je regarde en haut pour être toujours attiré vers le haut. Avant d'être croyant, donc en gros, je suis devenu croyant donc à mes 21 ans, 22 ans, en rencontrant la foi Barry. Enfin, je définis là le terme croyant par le fait de vraiment concrètement mettre des mots sur un absolu et en plus m'associer, enfin croire en des écrits, enfin croire en tous les écrits de toutes les religions en fait, et de me tourner consciemment dans la prière vers quelque chose de vraiment plus grand que je pourrais jamais connaître, mais que je peux apprendre à connaître. Donc c'est en devenant croyant que j'ai appris à vraiment tourner mon regard vers le haut, là où avant j'étais plus poussé par des forces de destruction en fait. C'est juste le constat de l'état du monde faisait que je me disais je ne peux pas rester les bras croisés. Donc j'agissais par peur, plus que par amour. Et c'est intéressant d'inverser les choses, de vivre les choses par amour, parce que ne plus avoir de peur, c'est facile, je crois. Mais ça peut nous rendre morts. Ça peut nous aseptiser complètement. C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs donc, pendant mes années de collège où je me suis très endurci. Il n'y a plus rien qui m'atteignait, en fait, j'avais l'impression. Mais ça m'a rendu froid, en fait. Alors que l'amour nous rend vulnérables, mais en fait, indestructibles. Je pense que voilà, ça apporte d'autres questions à ta question. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas.
Mais qu'est-ce que ça a changé par rapport à ton engagement dans l'écologie sociale en ton quartier? Est-ce que c'est le fait que tu parles d'amour? Est-ce que c'est ça qui a changé?
Est-ce que ça a changé quelque chose dans mon engagement, cet amour? Ça, ben, là, c'est un grand oui, sans nul doute. Parce qu'en fait, là où j'étais engagé dans l'action, en mode il faut faire. Je faisais déjà, donc. Hein, atelier de sensibilisation, je voulais monter une asso pour faire de l'électronique plus responsable. Oh, j'avais plein d'idées dispersées. C'était plus dispersé, comme je disais tout à l'heure. La foi permet de mettre les choses en cohérence. Je fais une parenthèse pour dire que je crois que la vraie liberté, c'est aussi de savoir où on va, de ne pas s'éparpiller dans tous les sens. Et ça a changé mon engagement très profondément, en fait, ce que j'ai compris, donc que j'agissais plus seulement par peur ou par amour, en me disant que rien d'autre n'aurait de sens que de m'engager dans l'écologie ou des causes humanitaires, des choses comme ça. Ça a placé le sujet sur un tout autre niveau. En fait, c'est bien de vouloir sauver la planète, vouloir réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est bien d'éviter de détruire la biodiversité. C'est bien aussi d'apporter à manger à ceux qui en manquent. Mais pourquoi? Pourquoi? Pour qui? Pourquoi, pour qui? Parce que si on considère les êtres humains comme... donc ça, ça serait un point de vue extrêmement matérialiste. Comme des simples animaux, en fait, hein, des machines biologiques qui vivent, qui meurent et puis qui passent, quoi, comme tout sur cette terre. Est-ce qu'on ferait tout ça? Peut-être on se dit, bah oui, les émotions, le besoin de survivre individuellement ou collectivement, ça fait qu'on fait attention les uns aux autres. Bon, ça, c'est une théorie qui a quelques difficultés, mais donc pour moi, en tout cas, il y a un vrai ressenti qui fait qu'on passe à l'action avec une vraie profondeur, c'est celui de souhaiter le meilleur pour chacun. On parle de liberté ce soir. C'est super lié à plein de thèmes, mais comme par exemple la justice. Je me perds dans une idée là. Oui, c'est un sentiment intérieur qui fait qu'on avance le plus. Il y a notre tête, hein, qui aide. Des fois, c'est le seul moteur aussi. Je pense que c'est quand on n'a pas. J'allais dire quand on n'a pas conscience de notre nature spirituelle, c'est un petit peu prétentieux de dire comme ça, mais quand on n'a pas un chemin spirituel consciemment, c'est-à-dire qu'on n'agit pas pour quelque chose de supérieur, on agit beaucoup avec la tête et aussi avec ce qu'on ressent sur le moment. Mais le fait d'être croyant, d'essayer d'avancer vers la compréhension de qu'est-ce que c'est que cet amour divin, ça donne un sens à toute la démarche, en fait. C'est plus seulement la fin qui compte, c'est-à-dire la fin de pouvoir sauver la planète, pouvoir nourrir des gens, pouvoir sauver les animaux. Parce que si on vit pour ça, moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est très douloureux. Parce que voilà, c'est un combat pour le coup. On a un sentiment qu'on ne va jamais y arriver. Il y a tellement à faire et il y a tellement de forces destructrices qu'on ne fait pas le poids et qu'on en fait, quoi. Donc on vit dans la peur, on agit dans la peur. Et tandis que quand on fait cette action, quand on est engagé pour l'amélioration du monde, avec un regard plus large, je dirais, déjà ça apporte une sérénité et donc une liberté. Est-ce qu'on peut choisir plus consciemment de dire est-ce que je m'engage ici ou est-ce que je m'engage ici? Sachant que ce que je recherche, c'est de pouvoir diffuser l'amour. Je donne un exemple concret. Est-ce que je m'engage dans une association humanitaire? Voilà, par exemple, pour accueillir des réfugiés ou distribuer un peu de nourriture à ceux qui en manquent, des choses comme ça. Ou est-ce que je vais sur un sujet environnemental? Ou est-ce que je vais sur un sujet éducatif et un travail plus lent, qui semble être plus lent, parce que quand on fait de l'éducation, c'est-à-dire qu'on veut contribuer à la conscience spirituelle de l'humanité, bah, ça demande beaucoup plus de temps, ça demande des générations, et donc on peut avoir le sentiment que ça va être trop tard. Je crois qu'il vaut mieux contribuer à l'élévation spirituelle de la société qui aura amélioré les conditions de vie et de façon pérenne que de courir pour éteindre le feu. En fait, il faut les deux. Il y a une image dans la foi bahaïe qui est utilisée, qui utilise l'image du phare au bord, sur la côte. Il y a des bateaux qui s'échouent parce qu'ils ne trouvent pas la côte. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va secourir les marins qui se noient ou est-ce qu'on construit un phare pour guider les bateaux? Bon, en fait, il faut les deux. Il faut un peu des deux. Mais si on veut avoir une action significative et qui a vraiment un impact durable, il faut construire un phare aussi. Donc, ça veut dire que peut-être on va laisser quelques bateaux couler, mais en fait, on va en sauver combien derrière? Énormément. Donc, ça demande de voir plus loin que le simple impact immédiat de nos actions. Je crois qu'il y a beaucoup ça dans la spiritualité. Quand on parle des mondes invisibles, ça a plein de significations, mais une chose invisible qu'on apprend à voir dans un chemin spirituel, pour moi, c'est l'impact des choses.
Oui, je voulais poser la question. Qu'est-ce que tu penses des fake news qui circulent ? Peut-être que cette question a déjà été posée là ce soir. Qu'est-ce que tu penses de tous ces fake news qui circulent pour brouiller tout ce qui se passe actuellement ? Et je suis contente d'être baillée parce que comme tu viens de parler du phare qui nous éclaire, donc j'ai réussi à me sortir de tout ce que je peux entendre et d'être pris dans un étau finalement de fausses informations et tout, et de ne pas faire confiance. Je me suis raccrochée au bail et à ma foi par rapport à ça. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui circule en fake news? Est-ce que ça t'interroge? Est-ce que...
Merci Michel. Donc, du coup, j'ai pas besoin de répéter la question là. Merci Zoom, vous me facilitez la vie. Quoique c'est pour vous qu'on y répète la question. c'est bien les fake news. On peut trouver tout ce qu'on veut. On peut avoir n'importe quel avis et être confirmé dans notre avis. En cherchant sur Internet, vous pouvez avoir n'importe quelle thèse sur n'importe quoi, à peu près. Je pense que vous pouvez être rassuré parce qu'il y a d'autres personnes qui pensent comme vous. Parce que vous allez analyser des faits de façon différente. En fait, donc comme je proposais d'amener les conversations sur le niveau du principe. Alors, pour commencer, les fake news, c'est vrai que les vraies fake news, dans le sens où celles qui nous apportent des nouvelles qui sont fausses, des informations fausses, c'est un désastre. Parce que si je vous dis qu'il faut sauver tel bateau et il est à telle position, mais qu'en fait, c'était pas vrai, qu'il était ailleurs, ou qu'en fait, il fallait y aller avec un autre outillage, en fait, on fait des choses qui sont incohérentes avec la réalité. Donc, en fait, ça crée de l'incohérence, ça morcelle la réalité, notre compréhension de la réalité. Ça nous empêche d'agir. Mais alors, comment reconnaître une fake news ? Du coup, c'est la question à se poser. Comment savoir si une information est valable ou pas ? Ça fait partie, pour moi, ça rejoint vraiment le... C'est encore une fois la vallée de la recherche. On y revient parce que ça demande de se poser sincèrement des questions et de prendre le temps de chercher les réponses. Là, Majnoun, dans l'histoire, il cherche sa bien-aimée dans la poussière. Il va tamiser la poussière et remuer l'éther. Ça prend une éternité, mais il espère bien pouvoir trouver ce qu'il cherche. Et peut-être qu'on ne trouve pas. Parce que, encore une fois, ce qui compte pour moi, ce n'est pas la fin, c'est le chemin. On parle de chemin de liberté, d'ailleurs. La spiritualité, chemin de liberté. La liberté est un chemin. Et donc, comment est-ce que, même dans notre recherche de la véridicité d'une fake news, on trouve Dieu, j'allais dire. Comment est-ce que dans la démarche de la recherche, on ne tombe pas, par exemple, dans un extrême de la polémique ou des avis partisans, des débats qui vont perpétuer en fait la destruction, parce que rendre encore plus difficile la démarche de la recherche, c'est extrêmement difficile aujourd'hui. J'avoue que moi, c'est pas mon terrain. Plusieurs fois, je me suis dit faut vraiment que je me mette à faire des recherches sur le Covid, distinguer le vrai du faux. Et en fait, c'est infernal parce qu'on a l'impression qu'il y a des études scientifiques qui prouvent tout et son contraire, et on ne sait plus qui écouter. Comment est-ce que dans une société qui est fondée sur l'intellectualité, donc les arguments logiques, comment est-ce qu'on peut savoir si un argument qui est donné, qui peut être des fois un fait, le fait étant vrai, parce qu'on peut savoir que ce n'est pas biaisé. Parce que si on prend une partie de la vérité, c'est pas une vérité. Si je vous dis il fait jour, quel exemple, il fait jour durant la journée parce que il y a le soleil, ça vous permet pas de savoir qu'il fait nuit la nuit, quoi. Enfin, c'est un petit peu nul comme exemple, mais la vérité n'est pas la vérité. Bon, là, j'ai pas d'exemple. Vous avez, je pense, compris l'essence de l'idée. Mais là où je veux en venir, c'est que pour moi, les fake news, c'est un exemple des forces destructrices, désintégratrices de la société. Parce qu'il y a, comme encore une fois le yin et yang, il y a les forces désintégratrices, donc le problème de l'information, le problème ça peut être de la politique, les gens qui se divisent pour des idéologies différentes, prétendre avoir la vérité, ça peut être les forces destructrices du matérialisme, de poursuivre toujours, de vouloir toujours posséder plus, voilà, tout ça. Ça nous amène à détruire le monde. Et en parallèle, il y a aussi des forces intégratrices qui sont celles, peut-être qui commencent par la recherche sincère, la réflexion, la méditation et l'action dans l'unité. Pour moi, ce qui est intégrateur, c'est de chercher à comprendre avec l'autre. Parce que si on a une vérité, mais qu'elle est que pour nous, on ne va pas aller très loin avec. Mais quand on se met à la partager, déjà, en plus, il y a des difficultés supplémentaires. C'est que les autres, peut-être aussi, croient avoir la vérité. Mais alors, qui a la vérité? Si tout le monde croit avoir la vérité et qu'on ne dit pas la même chose, une autre force destructrice, ce serait l'ego, de dire « c'est moi qui ai la vérité, c'est ça la vérité ». Mais ce qui est intéressant, c'est de consulter ensemble, de mettre sur la table, okay, quel est ton point de vue à toi, quel est ton point de vue à toi, et pouvoir trouver une vérité plus grande avec ces différentes facettes de la réalité, nos différentes perceptions. Savoir accepter qu'on a tort aussi, une part d'erreur, c'est extrêmement important. Donc, en résumé, ce que je pense des plus, c'est que c'est une excellente occasion de travailler notre patience, notre persévérance, notre sincérité, voilà, parce que c'est extrêmement difficile aussi de voir quelque chose et de ne pas se l'approprier comme un argument à soi. Moi, par exemple, je peux avoir tendance à faire ça pour ce qui est anti-vaccin. Je ne suis pas anti-vaccin, hein. Mais quand je vois quelque chose qui va contre le fait que le vaccin, c'est bon pour gérer cette crise, ça me réconforte. Mais je ne devrais pas. Je ne devrais pas. Je devrais juste recevoir un argument scientifique. C'est scientifique. Il est logique, il est rationnel. On le prend tel qu'il est et on l'ajoute dans notre pensée pour voir. Voilà. Donc, il ne devrait pas y avoir d'affect. Je pense que là où il doit y avoir de l'affect, c'est une vraie recherche, c'est le désir de contribuer à l'unité de la société et de l'humanité. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra gérer une crise, n'importe quelle crise, et qu'on pourra même aller plus loin que les crises et avoir quelque chose de mieux. Parce qu'on le voit du moment que, même quand il y a une bonne solution, si c'est le gouvernement qui l'impose à la population, ça finit par ne pas fonctionner, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, toujours.
Donc, ce que j'ai pu lire, c'est que c'est un Américain qui est parti de zéro, de rien du tout. Il a commencé à raconter des mensonges, il a vu que ça prenait, il a continué et gagne énormément d'argent avec ça. Ça, c'est une chose. Et Quentin, je voulais te dire que la première fois que je t'ai vu chez Mitra, j'étais séduite par le jeune homme que tu étais. Et je pense que ce que tu as vécu, tu es un miraculé. Et on a tellement prié, la communauté de Chambéry a tellement prié pour toi que je me suis dit que tu étais ressuscité, voilà, un miraculé.
C'est ça, une renaissance, oui, grâce à Barbara et le pouvoir, enfin, moi je le crois comme ça, hein. Le pouvoir de l'unité, il y a beaucoup d'amis qui ont prié quand ils ont appris.
Ah oui, c'était terrible, oui.
Beaucoup. Les médecins aussi, la soeur aussi, qui m'a sauvé. Je faisais entre parenthèses bonjour à ma maman qui vient de rejoindre.
C'est à vous. Voilà, c'est tout ce que je veux dire.
Je vais demander quand même, dans la mystique varaille, est-ce qu'il y a, bon, il y a cette force créatrice, il y a l'air, il y a Dieu. Est-ce qu'il y a des forces du mal?
Donc dans la mystique, l'exégèse, la théologie baha'i, y a-t-il le mal? Y a-t-il le diable? Y a-t-il Satan? Est-ce que ça va changer quelque chose à l'histoire si je dis oui ou non?
Pour connaître...
D'accord. Je pense pouvoir dire sans trop me tromper. Mais ça reste encore ma compréhension, mon interprétation. Je parle au nom de personne. Dans la foi baha'i, simplement, parce qu'après, quand on creuse, il y a toujours des nuances qui viennent s'ajouter, mais simplement, la foi baha'i dit que le mal n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'entité, en fait. Il n'a pas d'existence en tant que tel, en fait. Le mal ne se définit que par contraste avec le bien. Donc, en fait, Dieu existe. Le diable n'existe pas, mais le diable étant un peu l'absence de Dieu. Tu voulais rajouter quelque chose ?
Est-ce qu'on pourrait dire à ce moment-là ?
Est-ce que le mal est un bien non éclairé ? Et je crois que c'est ce que apporte ce point de vue-là. Le mal absolu, pour moi, n'existe pas. Enfin, je l'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu le bien absolu non plus. Sinon, j'aurais vu Dieu. Mais je vais vous faire un parallèle avec la physique, encore une fois. L'obscurité, elle n'existe pas matériellement. C'est juste l'absence de photons, c'est l'absence de lumière. Le froid, c'est l'absence de mouvement et d'agitation moléculaire. C'est l'agitation moléculaire qui fait la chaleur. Donc en fait, on parle juste d'une chaleur relative. Quoi aussi, le vide, ça, c'est pas possible. Le vide, c'est l'absence de matière qui d'ailleurs dans l'absolu n'existe pas non plus, parce qu'on sait les théories et les expériences montrent qu'il y a de l'énergie dans le vide. Le vide n'est pas vide, donc il y a toujours quelque chose. Et ce qu'on appelle mal, ce qu'on appelle destruction, c'est effectivement une absence relative de bien, de construction, de présence d'une force qui est constructive. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de combat non plus, puisque ce qu'on doit faire, c'est apporter effectivement la lumière. Quand on juge qu'une chose est mal, d'après moi, c'est une erreur. Enfin, dans le sens où il y a un bien dans toute chose. Baha'u'llah dit, ou les enseignements baha'i disent que quand on rencontre une personne et qu'on voit qu'elle a 10 défauts et 10 qualités, on doit voir que les 10 qualités. Et même si elle a 10 défauts et une seule qualité, on ne doit voir que la qualité. Donc, dans l'absolu, c'est ça. Après, il ne faut pas le prendre, pour moi, au pied de la lettre, c'est-à-dire au sens naïf du terme. Évidemment, il faut être conscient des choses négatives qui peuvent exister pour ne pas éviter d'en être la victime. Mais en fait, pour moi, ce que ça signifie, c'est que c'est en voyant les qualités qu'on peut les faire grandir, qu'on peut cultiver quelque chose. Parce que si on voit que le mal dans une chose, on va vouloir aller contre cette chose et donc créer de la division, créer de la destruction relativement. Parce que peut-être dans ce combat de vouloir supprimer le mal, c'est destructeur, mais il y a quelque chose de bien, c'est peut-être c'est une bonne intention. Donc, quelle est cette intention ? Voilà, là, on voit la qualité et on va pouvoir cultiver cette qualité. Si on arrose un sable mort, il n'y a rien qui va pousser. Mais si on arrose une terre, même si on ne voit pas, il y a des millions de graines sur un seul mètre carré, il y a des choses qui vont pousser. Oui, une question là-bas.
Tu nous as dit que la République a l'intention de se rencontrer les religions dans un environnement riche, varié, ouvert, et donc la rencontrer à la fois une communauté, puis la rencontrer la foi, pour ta foi à toi, puis la rencontrer l'enseignement. Et est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui a changé pour toi? La question pourrait être, c'est quoi la foi finalement? Qu'est-ce qui a changé pour toi à ce moment-là? Quelle est l'importance d'un enseignement et quelle est l'importance d'une communauté, donc de rencontrer des personnes en qui tu peux te reconnaître, avec qui tu te sens bien, qui te confortent, comme tu disais tout à l'heure, des gens qui pensent comme toi. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu à ce niveau-là? Peut-être qu'il est fréquent d'être dans une communauté et à un moment donné d'aller au-delà de cette communauté. Et voilà, pourquoi tu n'aurais pas pu continuer à progresser un petit peu sur un chemin individuel à travers des rencontres diverses comme tu l'as fait ce matin?
Je répète. Ok, c'est tactile. La question c'est pourquoi y a-t-il besoin, enfin, j'ai rencontré une communauté, pourquoi y a-t-il besoin d'une communauté plutôt que de faire un chemin individuel? Et y a-t-il besoin d'un enseignement? Ah, c'est ça, j'ai tout saisi. Et la foi, c'est. Ah, et qu'est-ce que ça signifie, la foi? Ok. Voilà, question. On peut avoir 2 heures en plus. Je vais vous partager un poème avant de parce qu'en fait, ça va aller sur la question. J'avais préparé deux, trois petits poèmes que j'avais écrits. Alors, à l'époque, donc en 2017, c'était bien avant que j'en joue la cobaye, mais enfin, que j'ai le sentiment de trouver mon chemin, mon guide sur le chemin, parce qu'on est toujours sur un chemin, mais voilà, quand on ne sait pas trop où on va, on avance, mais on ne sait pas vers où. Alors. C'est pour ça que je fais cette démarcation intellectuelle entre le moment, entre avant d'être croyant, d'avoir le sentiment d'avoir trouvé un guide, et après. Même si après, ce n'est pas tout droit non plus. Lorsque le cœur s'agite, que les idées s'emballent, c'est l'esprit qui cogite, et il a beaucoup de mal à mettre les idées à la suite. Penser dans tous les sens génère des frustrations, celles de ne pouvoir s'exprimer au fil des sensations, qui, elles, défilent à la file, parfois futile, emportant avec elles le lot des passions. C'est alors que le torrent de l'émotivité, de la sensibilité et de la créativité doit se déverser d'un puissant déferlement pour libérer l'énergie qu'il génère continuellement. Lâcher les chevaux est un besoin urgent. L'art est un pré où il galope, assurément. Mais les plus beaux voyages, et à tout âge, sont ceux qu'avec un proche, on partage. Il y a des traces de... En fait... Je crois que ça a attiré un peu le. Puisque je termine sur ceux qui. Les plus beaux voyages à tout âge sont ceux qu'avec un proche ou des proches, on partage. Il y a. Ok, je vais prendre les questions ainsi pour essayer de tout apporter. Dans la foi Bahá'í, il y a un prisme de lecture de la réalité de l'humanité qui est qu'il y a 3 protagonistes dans la société, 3 acteurs dans la société. C'est l'individu, les communautés et les institutions. Donc les individus se rassemblent en communautés et ces communautés, avec leurs capacités, peuvent établir des institutions, des agences qui permettent d'administrer les affaires, voilà, et de soutenir la vie communautaire. La foi là-dedans, ce qu'elle apporte, je crois, c'est donc ce serait une définition de la foi, c'est la capacité de se rassembler vers un idéal commun, même si dans nos esprits, en fait, il est toujours différent, mais dans les grandes lignes, on voudrait tous que chacun ait la liberté, c'est-à-dire l'opportunité de développer ses talents, ses capacités, ses qualités, pour les mettre au service du bien commun, parce qu'il y a la croyance que le bien des uns est ni plus ni moins le bien des autres. Sans l'un, il n'y a pas l'autre. C'est le principe du double objectif moral. Si je m'améliore, je peux améliorer la société. Et si la société s'améliore, elle peut améliorer la vie des individus. L'un est intrinsèquement lié à l'autre. La communauté, en se rassemblant, elle peut construire cette vision de l'avenir, ce commun possible. En fait, c'est en étant ensemble que les choses sont possibles. Si on était tout seul aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui vivent seules, les cloîtrées, isolées du monde complètement. C'est très rare, mais ces personnes-là, elles ne changeront pas le monde de la société telle qu'elle existe, quoi. C'est quand même la plus grande majorité de l'humanité. C'est très difficile de vivre en complètement autonomie. S'il fallait fabriquer ses chaussures, fabriquer son pain, réparer sa maison et tout, ça demande beaucoup de compétences. Et finalement, on fait beaucoup de choses qui sont très techniques. Enfin, ça peut être aussi très spirituel, mais ça va être pour soi, quoi. C'est pour soi. Et alors, pourquoi est-ce que je n'ai pas continué mon chemin par ailleurs? Et après, je vais terminer sur la question du guide. C'est que je ne voyais pas de sens, en fait. Si ce que je cherche, c'est améliorer l'humanité dans son ensemble, elle est très complexe, l'humanité, mais bon, si je veux avoir un impact sur l'humanité dans son ensemble et à mon échelle locale, il faut que j'agisse avec les autres. Et donc, quelles que soient les personnes qui sont autour de moi, je dois apprendre à travailler avec. Donc, je peux choisir l'endroit où je vis, ça me fera changer de communauté. Mais quand je vis à un endroit précis et que je sais qu'il y a des personnes qui partagent ce même idéal, voilà, passer à l'action pour contribuer à l'amélioration du monde et que chacun puisse faire l'expérience du divin et cette liberté-là, j'ai aucune raison de me dire non, moi je vais faire à part de vous, sans vous. L'intention exprimée telle qu'elle pour moi n'aurait pas de sens, mais dans la réalité, on n'est pas, même la communauté Bahaï, n'est pas un seul corps. C'est-à-dire que, par exemple, dans mon quartier, c'est-à-dire dans un périmètre de 1 km, il y a deux noyaux d'amis différents. Des noyaux d'amis, c'est donc des personnes qui se rassemblent, régulièrement pour dire ok, qu'est-ce qu'on comprend de notre quartier, quel est notre quartier, qu'est-ce qu'on peut faire pour agir, continuer d'améliorer le quartier, faire en sorte que chacun se sente investi de en fait c'est de la vraie politique dans ce sens-là, c'est que chacun contribue vraiment à la vie locale et sans dissension, parce que dès qu'il y en a un qui a une idée contradictoire, on l'inclut parce que ok, qu'est-ce que c'est pour toi, qu'est-ce que tu veux pour tout le monde, qu'est-ce que tu veux pour toi. Ça demande que chacun effectivement aussi fasse un travail sur lui-même, parce que s'il y en a un qui a des intérêts égoïstes, ça va être difficile, mais on peut toujours faire quelque chose. Après, si ta question c'est plus pourquoi est-ce que je ne suis pas allé ailleurs que dans la communauté Bahaï, parce que finalement, j'ai quand même un lien avec les Bahaï en particulier. À Chambéry, je connais Sabine. Hein? Marie-Noël. Ah oui, voilà, parce que moi, je t'avais, ça fait longtemps. Je ne t'avais pas reconnu en plus avec le masque. Pourquoi la communauté Bahaï, est-ce que je m'y attache tellement? Je sais pas si je m'y attache. En tout cas, je m'identifie parce que je sais que c'est des personnes qui sont loin d'être parfaites. Moi, je suis loin d'être parfait. Mes amis Bahaï du quartier sont loin d'être parfaits. Ils ne sont pas plus parfaits que les autres qui ne sont pas Bahaï. En fait, il n'y a pas de frontière entre Bahaï et non-Bahaï. Mais ce que je partage avec les Bahaï, c'est l'intention de faire mieux, toujours. Il y a une citation de la foi Bahaï qui dit que chaque jour soit meilleur que le précédent, que chaque matin soit plus grand que celui de la veille. C'est le principe de l'excellence, c'est d'aller toujours de l'avant dans l'apprentissage, dans une sorte d'humilité qui est nécessaire de toute manière. Donc, même dans l'imperfection, il y a une forme de perfection qui est l'intention de s'améliorer. Et donc, même s'il y a des difficultés, et d'ailleurs, le gardien de la foi Bahaï dit que les plus grandes difficultés de la communauté Bahaï, ça ne va pas venir de l'extérieur, mais de l'intérieur. Parce que c'est extrêmement difficile, on parle d'unité de l'humanité, c'est bien beau. Hein. Et moi, j'y crois à 100%, l'unité dans la diversité. Mais en pratique, c'est super difficile. Parce qu'on est tellement différents. Comment est-ce qu'on arrive à se rassembler sous la bannière de Dieu, quoi, de l'unité, de cette démarche? Parce qu'on est tous des créatures divines, on a donc tous une raison d'être particulière, et il faut qu'on trouve comment est-ce qu'on fait pour s'agencer comme un écosystème, en fait, pour avancer ensemble. Et du coup, si moi je veux me séparer de ça, faudra que je le retrouve ailleurs. Donc c'est une forme de contribution à une force désintégratrice. Parce que si tout le monde faisait ça dans la communauté Bahaï, il n'y aurait pas de... L'unité du monde ne serait pas possible. Je pense. Mais c'est super important de rester ouvert et d'aller faire les expériences à faire. Et le guide, il y a pris une question de Sabine. Et c'est là que le guide, les enseignements interviennent. Oui. Ça complète sa question, c'est ça? Ok, il y a la place du silence. Eh ben, je la garde dans la tête. Je reviens tout juste là d'Allemagne, j'ai fait 12 jours de séminaire, un séminaire Bahaï, donc, où on explore un cadre de pensée, de la compréhension de la réalité, pour contribuer à l'amélioration du monde. Et notamment, on a parlé de la science et de la religion, parce que dans les écrits Bahaï, on ne parle pas simplement de compatibilité entre la science et la religion, on parle d'une véritable harmonie. Et c'était intéressant, donc, dans cette étude, d'aller voir précisément ce que ça signifie, l'harmonie entre la science et la religion. Ce n'est pas juste des mots, c'est concrètement... Donc, la science nous aide à comprendre la réalité autour de nous. Ça nous aide à lire le livre de la création. Et la religion, là-dedans, elle nous aide à nous éclairer sur... elle nous apporte le livre de la révélation, qui est que de toute manière, pour faire de la science, on a besoin d'hypothèses de base. C'est de la philosophie. Ça vient de la philosophie, cette question-là. Mais comment est-ce qu'on fait de la science sans présupposer, je ne sais pas, par exemple, que l'univers est connaissable? Si on n'a pas cette hypothèse-là, on ne va pas découvrir l'univers. Mais si on va découvrir l'univers, on suppose qu'il est connaissable. C'est déjà... Pourquoi? Et ben là, par exemple, la religion avait apporté des éléments de compréhension que Dieu nous a créés pour le connaître, justement, pour avancer vers lui, pour aller vers lui. Donc, le guide... La religion, c'est un peu la lumière sur ce chemin. Pour moi, ça donne C'est difficile à exprimer, mais ça aide à trouver la direction dans laquelle on doit trouver des réponses, et pas juste une direction comme une autre, parce qu'on pourrait en choisir d'autres, mais une direction qui contribue à tout, au bonheur individuel, au bonheur collectif et à l'avancement perpétuel de la civilisation.
Juste peut-être pour compléter ce que la question de tout à l'heure, c'est de mettre en lumière peut-être pour expliciter les choses de la communauté, que dans la foi bahaïe, la communauté c'est aussi l'individu, c'est-à-dire que chaque individu est partie prenante de la communauté par le principe de consultation et qu'à chaque niveau il a son mot à dire, et aussi que toutes les activités qui ne sont pas stricto sensu religieuses sont ouvertes à tous, ce qui permet, en étant dans une communauté, d'être vraiment ouvert sur l'extérieur. C'est juste ça que je voulais compléter, si tu peux retranscrire pour ceux qui sont.
Oui, donc Sabine ajoutait que la communauté est l'individu, dans ce sens que par la consultation, l'outil de la consultation, le pouvoir de la consultation, on contribue tous à apporter notre pierre à l'édifice continuellement. Ça, eh bien, c'est ce que tu voulais dire. Et que c'est une science, quoi. C'est à la fois une science parce que voilà, on fait une recherche ensemble, on apprend ensemble, et en même temps, c'est spirituel parce qu'on avance tous sur le sentier du service et de la découverte de Dieu. Tu voulais rajouter quelque chose à cette question ?
Oui, je te remercie pour ta réponse qui effectivement qui suggère plein de questions comme tu l'as proposé au début de ta conférence. Et simplement, si tu pouvais ajouter un peu l'idée d'avoir la foi, ça veut dire quoi?
Et avant d'aller dans cette question avec des mots, je passe par la question du silence et vous propose de contempler une minute de silence, le temps que vous puissiez peut-être avoir des pensées positives pour toutes les personnes sur cette terre, pour que chacun d'entre nous puisse donner le meilleur qu'il a pour contribuer au bonheur autour de lui, à une meilleure société. Et du temps que aussi je monte ma clarinette et que je joue un petit morceau pendant votre temps de méditation, notre temps de méditation prière. Et on peut avoir une pensée particulière pour les personnes qui, dans ce monde, donnent littéralement leur vie pour que l'humanité puisse avancer. Il y en a beaucoup. Je vous cite simplement les Bahaïs d'Iran qui aujourd'hui sont fortement persécutés. Je ne sais pas si peut-être vous avez vu passer des tweets, des choses comme ça. Les Bahaïs sont en Iran, sont mis en prison juste parce qu'ils sont Bahaïs et qu'ils essayent d'apporter du bien-être pour tous ceux qui sont autour d'eux, donc pas seulement pour les Bahaïs. Hein, les Bahaïs sont vraiment très inclusifs. Et malgré ça, ils sont persécutés, mis en prison. Certains ont été tués. Du coup, ayez une pensée positive pour toutes les forces qui peuvent nous permettre d'améliorer ce monde pour le bien-être des générations à venir et de cette génération et de vous-même. Merci pour ce temps de paix. Et donc, nous étions sur la foi. Comment? Oui, la foi, le foie. Ça faisait partie de mes... Les lapsus sont... Effectivement, c'est mon révélateur. Ma foi était en mauvais état au moment où j'ai eu ce problème de foi. Sans la foi, effectivement, on s'arrêterait peut-être. Sans la foi, on ne voudrait pas que les autres vivent cette extase, cette félicité qu'on vit personnellement. Et donc, sans la foi, on ne serait pas engagé dans l'action autant qu'on peut l'être avec, peut-être. Sans la foi... On se détournerait des obstacles qui nous rendent le chemin difficile vers cet absolu que la foi vise. Donc, on progresserait peut-être moins, ou en tout cas différemment. Mais sans la foi, est-ce qu'on aurait-on seulement le sentiment que ça ait un sens de progresser? Pourrait-on seulement définir le fait même de progresser? Autant de questions que la science, auxquelles la science ne peut pas répondre. Et pour lesquels il est nécessaire d'avoir une lumière spirituelle. En fait, je me dis que quand je vois ce que c'est avec, je me dis pourquoi faire sans. C'est aussi simple que ça, bon, quelque part. Oui, sans amour et sans foi, quoi, c'est bon, c'est juste plus fade. On peut faire ce qu'on faisait avant sans la foi, mais on peut pas faire sans la foi ce qu'on fait avec la foi, par contre. Ouais, ça c'est donc il y a juste ouais, c'est plus vaste. Ça élargit les possibles pour moi. On a tout qui émerge vers anecdote slash principe spirituel à partager. C'est pas très grave ça. C'est pas très grave si c'est sans micro.
L'abandon, le processus d'abandon, on pourrait dire autrement, de dépouillement. Et j'ai l'impression que cette phase doit se répéter plusieurs fois dans la vie. Le lâcher prise, s'abandonner pour une augmentation de croissance, comme si on perd, accepter de perdre pour regrandir, diminuer pour pouvoir remonter. Voilà, je voudrais savoir ce que tu en penses, Quentin.
Oui, je partage totalement. En fait, c'est rigolo, moi, je n'ai pas le sentiment que Dieu il est là, ou là, ou là, ou là. Il est partout en même temps. Et dans ce partout en même temps, il y a... Le fait, je ne sais plus quel philosophe disait ça, que l'opposé d'une vérité spirituelle est une autre vérité spirituelle. C'est-à-dire que les opposés, en fait, sont deux faces d'une même pièce. Si je dis... si j'ai toujours du mal à donner des exemples... oui, donc bah, par rapport à ton exemple, du coup, pour se trouver, il faut se perdre, il faut s'oublier, en fait. Il y a une citation du gardien de la foi, Barry, qui dit le secret de la maîtrise de soi, c'est l'oubli de soi. Parce que si on cherche perpétuellement soi, c'est une forme subtile d'ego encore. Et donc, bah, par exemple, pour moi, en voulant faire ce chemin seul, par exemple, en disant ouais, je vais découvrir des choses vachement différentes si je vais ailleurs, c'est complètement différent, des croyances complètement différentes. Mais si on fait ça pour soi, je crois qu'on perd le soi. On fait ça pour moi, mais pas pour soi, parce que le soi, c'est celui qui relie. Le soi, c'est celui qui marie, c'est celui qui invite à l'échange, à l'harmonie, à la coopération, à la réciprocité. Donc, pour grandir, je crois effectivement qu'il faut oublier la fierté, oublier le savoir, oublier beaucoup de choses et se concentrer uniquement sur Dieu. C'est-à-dire, je ne sais pas. C'est-à-dire que le mot Dieu est là pour ça, je crois aussi. Pour nous laisser imaginer le plus vaste. Tout oublier pour se concentrer uniquement sur Dieu. Ça veut dire, du coup, on n'oublie rien. Puisqu'on voit l'essentiel. Oui. Sans micro, du coup. sans micro. Nommé avec un nom. Ouais, c'est Dieu. C'est Allah dans les écrits, dans la langue d'origine, le persan et l'arabe.
C'est Allah.
Mmh. On lui donne le nom qu'on veut. Hein. Mais c'est, ça, c'est un de ses noms. Juste théologiquement, en parenthèse, c'est un de ses noms. Allah, c'est celui qui est un. C'est un peu le un. Mais dans le christianisme aussi, il a beaucoup d'autres noms. C'est l'éternel, le dispensateur, le très généreux, le très haut, l'absolu, celui qui pardonne, celui qui châtie, celui qui donne, celui qui reprend. Il est les opposés aussi. Alors, je pense qu'on disait juste avant. Donc, oui, il est nommé. Mais en même temps, son nom, c'est qu'un nom. C'est juste un... C'est un doigt qui pointe, mais vers on ne sait pas quoi. Donc son essence est inconnaissable, ça c'est pareil dans toutes les religions. Toutes les religions, c'est une croyance bahaï. Donc là, je l'explique encore une fois, c'est mes mots. Toutes les religions sont une, parce que Dieu est un, et ça, donc sa religion est une. La religion avec un R, quoi. Après, il y a différentes religions qui se succèdent suivant les âges, et chaque religion parle des autres religions d'ailleurs. Pas une religion qui ne parle pas des religions du passé ou des religions du futur. Donc, pour les Bahaïs, c'est une même grande histoire qui s'écrit. Et pour ça que les enseignements se rassemblent beaucoup. Mais du coup, les religions apportent du coup, un guide concret pour contribuer à la civilisation selon les besoins de l'humanité à une période donnée, quoi.
Le verso serait l'Iran. Il y a une dimension orientale dans cette spiritualité bahaï.
Oui, le christianisme vient aussi de l'Orient, dit Sabine. Non. Enfin, ça, c'est ma réponse à moi. Hein. Je ne sais pas si je répondrais. Mais moi, non. Il y a forcément. De quoi donc? Ah, dans la foi bahaï? D'accord, dans le style. Parce qu'en même temps... Ah oui, d'accord. Ah oui, non, oui. Vous avez entendu à peu près ou j'essaie de redire? Vous avez entendu? Parler de l'aspect oriental de la révélation dans les écrits, le style. Parce que le vocabulaire, ça, le style ferait penser à la culture orientale. Et donc, ça me disait peut-être aussi. Enfin, le christianisme aussi venant de l'Orient, peut-être que ça y ressemblerait aussi plus si on avait la Bible qui avait été écrite directement par Jésus, simple, ou ses apôtres. Mais pour moi, non, il n'y a pas de... Enfin, oui, peut-être qu'il y a une... C'est universel. Une rose, c'est pas oriental. Peut-être que les Perses utilisaient plus... tel terme, telle forme pour exprimer telle idée, mais la révélation de Baha'u'llah, elle n'est pas uniquement... En fait, il n'y a pas qu'un seul style, déjà. Selon à qui il s'adresse, il prend des styles très différents, des postures très différentes, des énergies très différentes, et donc un vocabulaire très différent. Et c'est impressionnant d'ailleurs, même, parce qu'après, après Baha'u'llah, donc il y a deux successeurs, deux interprètes officiels, on va dire, dans la foi Baha'i, qui eux aussi ont écrit sur des formes, se sont exprimés dans des formes très variées, très différentes. Donc, peut-être que ça peut faire penser, oui, à des notes, c'est ça la beauté, c'est l'influence des différents courants. Et donc, mais c'est profondément universel, je crois que tout le monde comprend ce que c'est qu'une rose. Et aussi la question, ça on l'a vu à Yézipi là pendant le séminaire, c'est pourquoi les métaphores dans la religion? Parce que les métaphores permettent d'aller plus loin que des termes techniques. Si je vous dis ceci est un ordinateur, ça va pas plus loin que ceci est un ordinateur. Alors que peut-être si je vous dis ceci c'est une machine divine qui permet aux effluves éternels de s'écouler à travers la matérialité de la création. Bah, c'est beaucoup plus vaste. En fait, c'est libre à l'interprétation, beaucoup. Mais en même temps, c'est très concret. Enfin, je sais pas, moi, il n'y a pas plus concret que... Là, je vous ai lu les sept vallées. Bon, encore, cette vallée-là, elle n'était pas très, très poétique dans l'image. Encore, voilà, c'est juste tamiser la poussière. Pourquoi poussière? Poussière, ça signifie quoi? Alors, on ne parle pas du sable. Mais ça a plein de significations. Donc, voilà, c'est universel, peut-être dans ce sens-là. Mais il faut pas, je crois qu'il ne faut pas tomber dans le piège de penser que du coup, c'est pour l'Orient, pas du tout. C'est ça. Comme les autres dispensations. Ouais. Oui.
Oui. Tu nous as dit qu'il avait recherché le sens de ton accident et tu pourrais nous en dire davantage.
Pourquoi pas? Bah alors, du coup, c'est l'occasion de vous lire un deuxième poème. 2017 aussi, un mois après le premier que je vous ai lu. Mais ça va dans ce sens. Ce sont ces innombrables remous, ces idées qui s'enchaînent. Le galop de ma créativité, source de liberté, qui m'entraîne à masse et dans tout, ne trouve pas ma place, le bon moyen pour m'exprimer. Entre les murs de la ville, l'espace est petit. Comment faire si mon désir est infini? Je me sens seul dans le besoin d'extérioriser. Ma flamme m'en incendie, mais contre mon gré, je ne sais plus que rester muet. Je suis cloîtré, renfermé, comprimé, angoissé, au fond de moi-même, cherchant l'opportunité de sortir de ma coquille que je croyais être un remède. Alors je cherche ce qui m'apporterait grand aide. Je cherche. Et sur... Ah oui, le sens de l'accident, donc je cherche. J'ai cherché parce que je crois qu'il y a toujours à chercher, et si on ne cherche pas, on ne trouve pas. C'est bête, hein, si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Et si on cherche, et quand on cherche, on trouve ce qu'on cherche, généralement. Dans le séminaire aussi, on a parlé de ça. Le fait que certaines hypothèses, certaines croyances de base qui constituent la science, qui permettent à la science d'avancer, en fait, déterminent un prisme d'observation de la réalité qui fait qu'il y a des choses qui passent à côté. Si je dis je vais regarder la matière à l'échelle microscopique, je ne verrai pas peut-être l'immense comète qui est en train de me passer dans le dos, quoi. La science permet de répondre à des questions ciblées, mais du coup, ça demande de réduire le champ de vision. Il y a des choses qui, côté desquelles on passe. Quand on cherche la raison d'un accident, quand je cherche la raison d'un accident, je cherche ce que je dois apprendre, que j'aurais pu apprendre plus tôt, que je n'ai pas appris plus tôt, mais qui, du coup, a fait que j'ai eu cet accident, qui m'impose un peu plus fortement de chercher. Quand quelqu'un a des cancers à répétition, par exemple, si on s'attarde juste à guérir le cancer, on guérit le symptôme, mais on ne guérit pas la cause du symptôme, la cause de la maladie. Et donc, c'est intéressant de chercher la cause et la cause de la cause, parce que si on ne va pas par là, on va faire des choses de surface, comme si on fait de l'aide humanitaire, qu'on apporte à manger, c'est bien, mais on ne guérit pas le problème. On vient juste pallier. C'est palliatif. Non. Est-ce que je peux dire un peu plus? Moi, est-ce que j'avais compris, ce que j'en garde aujourd'hui, puisque après la mémoire filtre aussi. En fait, à cette période-là, je travaillais pour Mouvite. J'avais un travail d'ingénieur pour un projet qui avait du sens à mes yeux, parce que c'était pour les circuits courts alimentaires, donc la distribution d'alimentation locale, raisonnée et tout ça. Mais j'étais beaucoup dans... Je forçais beaucoup, justement. Et malgré tous les signes extérieurs qui montraient que ça n'allait pas, dans la relation avec mon patron, notamment, avec le chef du projet, là, ce n'est pas de la persévérance, c'est de l'entêtement. Je me suis entêté. Il a fallu cet accident et ces multiples séquelles pour que je me demande, OK, pour en arriver là, c'est une croyance de base aussi, hein, on n'est pas obligé de croire ça, mais je dis, si il m'arrive un truc aussi violent, je suis le seul responsable déjà. J'aime bien voir les choses sous cet angle-là. C'est-à-dire que tout ce qui m'arrive, j'en suis l'unique, le seul responsable. En fait, dans les écrits Bahá'í, dans les enseignements de Bahá'í, il y a deux types d'épreuves dans la vie. Il y a les épreuves qu'on génère, dont on est responsable directement parce que on boit de l'alcool, on a une cirrhose du foie. C'est bon. On ne prend pas soin de ça, on ne prend pas soin de soi, on est malade. C'est logique. Et l'autre type d'épreuve, c'est les épreuves que Dieu met sur notre chemin pour nous faire progresser. Mais je ne crois pas qu'il y ait de distinction nette, c'est mon interprétation, je ne crois pas qu'il y ait de distinction nette entre les deux, en fait. Je crois que c'est la même chose. Ces deux choses sont la même chose. Tout ce qui nous arrive, à la fois, on en est responsable, et à la fois, c'est un bienfait de l'univers parce que ça nous permet d'apprendre. Si on est malade quand on boit de l'alcool, c'est parce que les lois de la biologie font que. Et les lois de la biologie, on peut mettre ça dans la création de Dieu. C'est Dieu. En même temps, je suis responsable. Bon, pareil, mon accident, je me dis, j'ai perdu connaissance. Alors, déjà, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est juste un malaise vagal, alors que j'en ai jamais eu. J'ai jamais eu de problème de santé majeur. Ou bien parce que j'ai forcé en faisant de l'apnée. Ce qui est possible, parce que la veille au soir, j'ai regardé Le Grand Bleu. J'étais émerveillé par ce film que je ne connaissais pas. Et je me rappelle que je me suis fait la réflexion en me levant le matin, que j'ai rêvé du film. J'aime beaucoup l'apnée, mon oncle en fait, j'en ai fait un peu avec lui. Donc je sais, c'est une possibilité, en fait, que voilà, peut-être je me suis dit, ouais, vas-y, je peux battre mon record, je ne sais rien. Ça aurait été un peu bête de le faire sur le bord de la terrasse, mais bon, je suis aussi un peu bête, alors ça peut arriver. Mais du coup, c'est pas que ça. Ça peut pas être que ça non plus. Il y a une série d'événements, une série de choses qui font que je dois me remettre en question. En plus, j'ai un mois d'hôpital pour le faire. Je savais pas combien de temps ça allait prendre, mais mes reins étaient dysfonctionnels, donc j'étais sous dialyse. Il fallait quoi ? Il fallait encore m'opérer à la mâchoire. Il fallait que tout se remette un peu en place et tout. Il fallait que je puisse me remettre à marcher parce que je pouvais plus marcher. Plein de choses, quoi. Donc, j'avais du temps. Il fallait faire quelque chose de ce temps. Je me suis dit, le temps, il est là pour une raison aussi. Donc, je vais le mettre à profit. Je vais méditer sur ce... Voilà. Donc, ce que ça m'a amené à faire dans les mois qui ont suivi, enfin les semaines, j'ai fait un équipe. Comme je disais tout à l'heure, il y a des écarts et je crois que c'est sain de remettre en question régulièrement pour chercher les renaissances, donc abandonner le connu, quoi. Et là, mon ami Mathias n'est plus là, mais il m'avait parlé d'un livre de Krishnamurti, Se libérer du connu, très intéressant. Et il me disait, non, mais écoute pas ça, ça ne va pas t'intéresser, c'est complètement contraire aux enseignements Bahá'í. Comment ça? Ça m'étonnerait. Enfin, peut-être que dans la forme, oui, c'est vrai que dans la forme, ça semble contraire aux enseignements des religions, mais en fait, dans le fond, je trouvais ça très vrai. Et se libérer du connu, c'est-à-dire abandonner les doctrines, les croyances qui font dans la religion Bahá'í, par exemple, il faut prier quotidiennement. Enfin, il faut, personne ne le demande, c'est juste les écrits qu'ils demandent. Mais il y a cette autorité, quand on est dans la religion, on croit en une autorité divine, en fait, qui s'exprime à travers un personnage terrestre, mais finalement, ça vient du ciel. Il dit que même ça, on peut s'en détacher. C'est super intéressant parce que, en fait, quand on se détache de cet absolu, en fait, on le retrouve sous une forme plus grande. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'est vrai que je suis très influençable, ce qui m'a amené à cet accident, c'est que j'étais influençable, je m'exprimais pas suffisamment, je vivais ma foi de façon un peu trop normée, quoi. Bon, je faisais mes prières et tout, mais j'avais pas la vraie vie spirituelle au fond. Donc en fait, j'étais vivant, mais j'étais mort. Donc, pour me montrer que j'étais mort, Dieu m'a tué. C'est une façon de le raconter qui est rigolote. Je me suis dit, ok, ouais. Je ne vais plus lire les écrits, je ne vais plus faire ma prière, je vais faire ma recherche indépendante de la vérité. Parce que la religion nous demande, hein, en fait. Donc, en fait, quand on s'écarte de la religion, on ne s'écarte pas vraiment. Donc, je me suis dit, ok, si aujourd'hui je refais ma vie de zéro, puisque j'ai tout le temps et je peux ne plus travailler là où je travaillais et tout, je peux tout refaire de zéro, qu'est-ce que je fais? J'ai eu des conversations, j'ai écouté mon cœur, j'ai médité et. Au fur et à mesure, après, j'ai repris un écrit et je me suis dit, c'est pas le même écrit qu'avant, c'est moi, en fait. Là, c'est moi. L'écrit dit autre chose que ce que j'avais lu avant, le même. Hein. Et c'est souvent ça, en fait, dans les écrits, vous savez, puisque justement, c'est sous forme de métaphore, souvent, et même quand c'est pas métaphorique. Et donc, c'était une renaissance où j'ai appris à la fois à prêter allégeance à l'autorité de Baha'u'llah, et en même temps j'avais davantage équilibré du côté de mon indépendance et ma recherche sincère, mon esprit critique, parce que l'esprit critique c'est pas celui qui détruit, c'est celui qui ouvre le champ des possibles. Quand on n'a plus l'esprit critique, on peut plus aller vraiment très loin. Parce que même si c'est de la critique destructive, de oui, mais après tout, pourquoi faire ça? Est-ce que tu es sûr que ça, c'est bon pour toi? Tout ça, c'est pas de la critique. Ça, c'est... Je sais pas quel mot pour mettre dessus, mais bon, c'est pas constructif, quoi. Quand c'est constructif, c'est intéressant, ça permet d'aller plus loin. On va arriver. Ah oui, on arrive au terme, il est 21h.
Je peux poser une question.
Oui, Gita, et puis
voilà.
Peut-être poser les.
D'abord, je te remercie pour ton enthousiasme et tes partages, etc., qui sont super intéressants. Mais j'ai une question, et je vais dire que c'est la troisième ou quatrième fois que j'entends je suis responsable à 100%. Et c'est moi j'ai les cheveux blancs, mais c'est des personnes jeunes comme toi qui disent je suis responsable à 100%. Alors pour moi la question c'est comment tu peux dire que tu es responsable à 100% de ton accident que j'ai suivi de près et qui m'a fortement touchée, et même ta guérison et ta façon de faire, etc. Et ma question, on est responsable de l'évolution, enfin pour moi en tout cas, on est responsable de l'évolution de nos qualités spirituelles, d'accord ? Et ça on essaye en tout cas en tant que Bahaï de le faire évoluer, de le faire fleurir et de le faire évoluer tout au long de notre vie et même jusqu'à notre dernier souffle. Mais ma question précise est où est la volonté de Dieu dans ce parcours ? Et parce que pour moi, c'est quand même important. Comment est-ce qu'on peut, en tant qu'être humain, dire qu'on est responsable à 100%? Voilà, ça c'était ma question. Et c'est quand je pose cette question, c'est pour me rapprocher un peu plus de la façon de voir des personnes qui sont plus jeunes que moi. Voilà. Est-ce que j'ai bien expliqué ma question ? Est-ce que c'est compréhensible ?
Oui, j'ai compris. En résumé, donc, où est la volonté de Dieu quand on dit qu'on est 100% responsable de notre vie ? Et peut-être tu peux prendre les deux questions en même temps, comme ça. Ok, respectez l'horaire. Ok, donc je fais quoi ? Juste, je réponds à cette question-là, et puis après, peut-être on discute personnellement en sortant. Ok. Hier, partageait un écrit du Coran qui dit « L'homme est mon mystère, et je suis le sien. » Et mon mystère, et je suis le sien. Dieu qui est l'omniscient, celui qui sait tout. L'homme est mon mystère et je suis le sien. Donc, où est la volonté de Dieu ? Je ne saurais pas. Elle est partout. En même temps, elle est partout et en même temps, on est complètement responsable. Ouais, c'est les deux facettes d'une même pièce, à vous de trouver la pièce.
Voilà. Et puis aussi, si je peux juste rajouter. En effet, je peux comprendre que tu es un miraculé, mais s'il n'y avait pas la science, tu ne serais pas un miraculé. Et ça, c'est important quand même. S'il n'y avait pas ce pompier, si tu n'avais pas repris ton esprit, tout ça, pour moi, ça fait partie quand même, pas que de ta responsabilité, mais d'une part de ce mystère divin qui a voulu que tu t'en sortes aussi. Voilà. Pour moi, je suis scientifique, c'est pour ça que je précise ces choses-là. Pour moi, c'est important qu'il faut qu'il y ait l'accord entre la science et la religion. Il faut qu'il y ait, comme tu l'as super bien exprimé, qu'il y ait cette recherche personnelle de la vérité aussi. Voilà. En tout cas, merci mille fois.
Merci à toi. Et oui, la science... a tout son rôle à jouer, sinon on ne serait pas sur Terre.
C'est vraiment intéressant.
Sur l'homme est mon mystère et je suis le sien. Ouais, j'aime bien aussi.
Merci.
Merci à vous tous d'avoir l'opportunité de vous discuter un petit peu. Petite annonce.
Oui, je voulais juste...